l'histoire universelle de Marseille. Voici en cet épisode une version sonore du livre d'Alesside Alumbrea sorti aux éditions Agone. Aujourd'hui, dernier volet de notre série, Marseille, de la débrouille à la délinquance.
Je critique un peu le titre, je trouve que le titre il prête à confusion.
De la débrouille à la délinquance ?
Ouais, parce que je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée d'un tel titre. Parce que ça suggère qu'on commence par faire un peu des petites combines, genre travail au noir, commerce informel et tout, et puis qu'on finit par braquer les fourgons de la Brinks, alors que c'est pas du tout ça que je veux dire.
La délinquance, c'est un peu plus que ça, quand même. C'est un peu moins que ça, je veux dire, plutôt.
Ouais, bah disons, quand on parle de la débrouille et de la délinquance, il y a le point commun, c'est que c'est en dehors, à l'écart des règlements, à l'écart de l'administration, du contrôle de l'administration. Alors, évidemment, il y a tout un imaginaire de Marseille, Marseille et Chicago, partout où je vais, Marseille, ville de truands, etc. En règle générale, à Marseille, il n'y a pas plus de délinquance que sur toutes les autres grosses agglomérations, hein. Enfin, toute proportion gardée, Lyon, Paris, Lille, Roubaix, Tourcoing. Ce qui est, il y a plusieurs choses quand même qui différencient Marseille, c'est que c'est vrai qu'il y a globalement, il y a une mentalité très méditerranéenne, mais qu'on ne trouve pas forcément en Espagne, qu'on trouvera en Italie, qu'on trouvera en Grèce, qu'on trouvera en Afrique du Nord, disons de prendre des libertés avec les règlements, avec les textes de loi. Disons que les gens, c'est pas nécessairement un acte d'insubordination délibéré ou un acte de délinquance résolu. Hein, on considère que on s'arrange. La culture de l'arrangement, ça c'est très important à Marseille. Bon, traditionnellement, d'abord parce que c'est une ville de pauvres, hein, c'est une ville d'immigrés, donc de gens qui ont besoin de s'arranger pour s'en sortir. Aussi parce que c'est une ville aussi qui a une culture de négoce, et donc il y a de toute façon, c'est vrai, même au niveau du négoce maritime marseillais, c'est vrai qu'il y a une tradition de fraude. Quand tu penses, par exemple, qu'un des monuments emblématiques de Marseille, le château d'If, a été construit pour empêcher la fraude fiscale.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de navires qui relâchaient derrière les îles du Frioul et qui faisaient, surtout sur les marchandises de petits volumes comme les épices, qui débarquaient par petites barques la nuit. Qui passaient, qui allaient, qui débarquaient, genre dans la Hanse des Catalans, ou la Calanque de l'Ours, là, qui n'existe plus, puisque c'est là où ils ont fait le port de la Joliette, quoi. Dans des endroits un peu, c'est-à-dire en dehors du vieux port de Marseille, quoi. Et ça, pour échapper à l'administration royale qui prélevait les taxes de douane. Quoi. Et donc François Ier a entrepris la construction du château d'If, dans le but de déranger ce trafic. Parce que cet endroit-là, il est idéalement placé pour emmerder les gens qui font leurs affaires. Et d'ailleurs, ça a été très mal vu à l'époque par les Marseillais. Quoi. C'est pas du tout dans un but défensif. Quoi.
C'était une prison, je te dis.
Oui, après, c'était une prison. Ils ont mis pas mal de gens, les communards, notamment le pauvre Gaston Crémieux, entre autres. Et donc, c'est quand même assez significatif. Et tu vois, il y a toujours eu, de toute façon, de la part... Et là, il y a toujours une complicité de la population marseillaise, de haut en bas, face à l'administration fiscale des rois de France. Il y a toujours une complicité pour essayer de frauder au maximum, ce qui était perçu comme un pur racket fiscal, à bon droit d'ailleurs.
À ton avis, ça vient d'où justement cet esprit-là ? Ça vient effectivement du fait que la ville est constituée d'immigrés ? Enfin, je veux dire, oui, effectivement.
Ça à l'époque, c'était tout simplement que quand... Quand Marseille a commencé à tomber sous le joug des rois de France, les Marseillais considéraient comme abusives les prétentions de la monarchie à contrôler le commerce. Après, par la suite, si tu veux, bon, au 19e siècle, c'est devenu une ville ouvrière, donc une ville d'immigrés. Ça a été autre chose. Ça a été, pour beaucoup de ces familles, souvent nombreuses, qui vivaient dans des conditions de précarité au niveau de l'emploi, du logement, tout ça. Il y avait des... disons de l'arrangement, quoi. L'arrangement, ça allait depuis la caisse d'orange détournée par le docker sur le port, quelques outils volés par le métallo dans son atelier. Récemment encore, j'ai vu l'émission Vaki, l'émission Provençal dimanche, c'était sur les chantiers navals de Port-de-Bouc, là, il y a quelques vieux ouvriers qui parlaient provençal. Les trois qui parlaient, ils se faisaient le plaisir de raconter qu'à l'époque, dans ces chantiers navals qui ont été fermés en 1966, Ils faisaient ce qu'on appelait la perruque, c'est-à-dire ils bricolaient des objets sur place pour la maison, ou ils piquaient un peu d'outillage, ou ils piquaient des sacs de clous, des crous, des machins, enfin, un peu de récupération. Je veux dire, mais ça, c'est pas spécialement à Marseille. Je veux dire, partout dans le monde, partout il y a des ouvriers, ils essaient de récupérer un peu la part de ce que le capital leur vole de cette façon-là. Hein. Mais disons qu'à Marseille, vraiment, dans la mesure où après il y a tout un réseau, il y a des débouchés commerciaux pour ça. Et c'est vrai qu'à Marseille, il n'y a pas de frontière nette entre le milieu, disons, ouvrier, voire maintenant on va dire le milieu des travailleurs modestes, et le milieu vraiment des délinquants. D'abord parce que les uns et les autres se côtoient dans les bars de quartier, ils ont grandi ensemble, etc., ils se connaissent. Souvent les uns sont les autres, hein, des gars qui bossent, après qui...
Là, tu parles d'aujourd'hui ?
Oui, oui. Des gars qui ont bossé à un moment donné, après qui sont montés sur des équipes de braqueurs, enfin on connaît, il y a des cas connus hein, sur Marseille. Donc il y a des contiguïtés, tu vois. Et culturellement, c'est très accepté.
Après, j'ai l'impression aussi qu'à Marseille, ça marche par quartier. Enfin, je veux dire, il y a des quartiers qui sont plus propices.
Oui, déjà les gens se connaissent, donc on te présente un tel qui va t'acheter de la marchandise, si tu as l'embellie d'en avoir en plus grosse quantité, moi je t'en fais vendre, et ainsi de suite. Mais c'est à tous les niveaux de... ça va même plus haut. Moi je me rappelle, il y a très longtemps de ça, un gars qui était cadre dans une entreprise de matériel électrique, qui m'avait proposé d'acheter un demi-bœuf. J'ai dit, tu j'en fais, moi j'ai pas de congélo. Moi. Et le gars, il cherchait, parce qu'on lui avait proposé un bœuf entier. Bon, c'est évident, c'est un truc qui vient d'une carambouille, une carambouille sur la viande. Bon, la carambouille, là, on est déjà au niveau d'une délinquance organisée, plus en col blanc, quoi. C'est plus le petit voleur de quartier qui va te proposer un poste qu'il a chapardé dans une bagnole ou je sais pas où, tu vois. On est déjà dans des trucs organisés, quoi. Le gars, c'était un cadre sup, je suis sûr un type qui doit avoir un casier judiciaire vierge. Il y a ce fonctionnement à Marseille qui est très fort, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui différencie beaucoup Marseille de pas mal... de la quasi-totalité des autres villes françaises, quand même. On prend plus facilement donner des libertés avec la loi. Alors après, il y a aussi une autre chose, c'est la légende de Marseille, la mafia, etc., etc. Bon, alors, ça, je l'ai dit dans toutes lettres dans le bouquin... À Marseille, la mafia, il n'y a pas de mafia. Pour bien connaître le sud de l'Italie et pour avoir passé pas mal de temps dans certains endroits où la mafia est très présente et omniprésente, et avoir vu, avoir observé un peu, avoir entendu les gens du coin me parler, je peux te dire, à Marseille, ça n'a rien à voir, quoi.
Alors, c'est quoi les bars qui explosent parce qu'ils, soi-disant, ils n'ont pas payé un dû?
Il y a du racket, mais attends, tu vas à Naples, n'importe quel boui-boui, n'importe quel mec qui vend un kebab, n'importe quelle activité qui génère du chiffre d'affaires, si modeste soit-il, passe nécessairement sous le contrôle d'une équipe, d'un clan de la Camorra. Et c'est au point où la Camorra, de plus en plus, ne se contente pas de taxer, mais rachète, pour faire travailler à son compte, et 50% du commerce sur Naples appartient à la Camorra. Et dans certains endroits, comme la périphérie nord, de Naples, où le phénomène a pris une extension hallucinante ces 30 dernières années, la Camorra n'est même plus une excroissance qui se greffe sur la société, c'est la société même. Et À Marseille, on n'est pas là-bas. Il y a eu des grosses équipes à un moment donné qui ont eu le contrôle quasi total sur le secteur d'activité, disons, du mi-temps. Du mi-temps, ça veut dire le milieu en provençal. C'est marrant parce que le mi-temps, c'est le milieu. Ça veut dire, on dit, oh, lève-toi au mi-temps, lève-toi du milieu. Et l'expression est passée à Paris, d'ailleurs, tous les voyous toulonnais, marseillais qui étaient à Paris, et c'est toi, tout ça, on passe l'expression. Et bon, il y a l'époque de l'hydrocarbone, tu
est-ce
vois.
Est-ce que c'est pas que la mafia, enfin, je veux dire, c'est officialisé, enfin, quelque part, c'est plus hein, quelque chose qui est vraiment tabou, mais maintenant, il y a effectivement, même au niveau politique, quoi, on sait plus trop.
Oui, là aussi, comme tout, il y a des contiguïtés, mais attention, quand on parle de mafia, on parle d'un système qui repose sur l'intimidation violente. On t'impose une protection par l'intimidation violente. Et l'intimidation violente, ça peut aller jusqu'à l'exécution pure et simple. On n'en est pas là à Marseille. Ça existe, oui, mais dans certains secteurs d'activité précis. Tout ce qui est les discothèques, les établissements de nuit, et encore, moi je vois à la plaine, les cafés concerts à la plaine, ça génère même pas assez de fric, quoi. C'est-à-dire, si tu es à Marseille, il y a quand même pas mal d'argent qui circule sur d'autres secteurs, donc après il y a les machines à sous, il y a les jeux, il y a la contrebande, puis bon, évidemment, il y a la drogue. Alors Marseille est tristement connue dans le monde entier pour être la capitale, avoir été longtemps la capitale du raffinage de l'héroïne. En fait, c'était les truands corses qui tenaient les bordels à Saïgon, qui à l'époque, quand De Gaulle est arrivé au pouvoir en 1944, il y a eu la guerre d'Indochine, etc. Et c'était Pasqua d'ailleurs, qui connaissait dans les Corses et tout, qui arrangeait ça avec les barbouzes corses, ils rendaient des services, ils éliminaient les nationalistes vietnamiens, en échange de quoi ils avaient certaines libertés, notamment celle d'importer la morphine base de Saïgon à Marseille pour la réexporter aux États-Unis. L'accord étant que ça ne devait pas être vendu au détail dans le territoire français. Et ça a fonctionné jusqu'à un certain moment, jusqu'au début des années 70. Début des années 70, d'une part, les Américains ont commencé à dénoncer de plus en plus ouvertement la French Connection, quoi. Les accords entre les truands corses de Marseille. Et alors, ça avait généré les chimistes corses marseillais étaient devenus très experts en la matière, ils étaient très réputés dans le monde entier, quoi. Ils étaient. Alors, quelque part, d'une certaine manière, ça a réalimenté le vieux négoce d'importation-exportation du temps de jadis, quoi. Sur des marchandises nettement plus réduites en volume et qui généraient. Qui avait une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Mais c'est un peu le même fonctionnement, hein. C'était des négociants quelque part. Bon, mis à part, c'est des géants et des négociants, des gens qui vendaient de la mort blanche, quoi. Alors ça, après, au moment donné, bon, on leur a retiré ce soutien en haut lieu, quoi. Là, la French Connection est tombée, il y a eu plusieurs équipes qui sont tombées dans les années 70, 80, la dernière grosse équipe étant celle de. Mais qui avait flingué le juge Michel, hein, les mecs d'Andoum. Hein. Voilà, mais ça, mais c'est quelque chose qui est très marginal par rapport à Marseille. Hein. Attention, ça c'est une chose. Mais bon, évidemment, tu te balades à l'étranger. En Italie, par exemple, je me rappelle, il y a 15 ans, il y avait un feuilleton, une série télévisée qui s'appelait L'Homme di Marsiglia, hein, l'homme de Marseille. Et le mec, c'était un gros dealer d'héroïne et tout.
Oui, ça a créé du fantasme à l'étranger.
Oui, pour commencer à Paris, déjà, à l'époque. Ça a d'ailleurs contribué ça, à la mise sous tutelle de Marseille en 1939. Hein. Le fantôme de Marseille-Chicago, à l'époque des relations entre Sabiani et Spirito et Carbone. Bon, après-guerre aussi, on sait que Defferre a bénéficié du soutien logistique et plus que ça des Guérini, puisque les Guérini étaient en concurrence avec Spirito et Carbone, qui étaient passés du côté de la collaboration, qui collaboraient avec la milice, avec la Gestapo allemande. Les Guérini étaient passés dans le maquis avec les socialos, et après-guerre, ils ont aidé Defferre à contrer les FTP, à contrer la classe ouvrière marseillaise, quoi. Y compris en filant des gros bras pour casser les grévistes. Puis il y a la fameuse histoire là, de l'insurrection ouvrière de 1947, où les ouvriers marseillais ne se sont pas trompés, ils se sont dirigés de suite dans le quartier de l'Opéra, ils ont saccagé toutes les boîtes de nuit. Parce que c'était là qu'ils contrôlaient le marché noir, les Guérini. Alors tous les ouvriers marseillais qui se serraient la ceinture, ils ont eu. Ça a été une de leurs premières cibles, quoi. Et c'est là qu'il y a eu des coups de feu qui ont été tirés depuis un cabaret, la rue de la Tour. Il y a un jeune ouvrier des aciéries du Nord à la Capelette qui a été tué. Après ça, alors du coup, ça a étendu le mouvement à tout Marseille, grève générale, etc. Ça a commencé quelque part. Bon, je ne veux pas refaire l'histoire de l'insurrection ouvrière de l'automne 47, parce qu'à Marseille, c'est véritablement un mouvement insurrectionnel. Qui a duré plusieurs mois, avec occupation de carrefours stratégiques de la ville par les grévistes, contrôle de la circulation, des affrontements très violents avec les gendarmes mobiles, des campagnes de CRS dissoutes parce que accusées de connivence avec les manifestants. Beaucoup de CRS, c'est encore de répression issue de la résistance, donc beaucoup étaient d'anciens FTP. Et donc les types, ils n'allaient pas volontiers taper sur leurs anciens camarades. Donc, tu vois, ça allait quand même assez loin. Il y a eu des morts, pas que celui dont j'ai parlé, là, d'autres. C'est quand même un mouvement très vrai. On voit quand même que même dans cette histoire-là, même dans l'histoire du mouvement social le plus profond, le plus violent que Marseille ait connu au XXe siècle, on trouve le milieu au milieu. Après, bon, ça c'est. Les liens se sont distendus. Disons que beaucoup d'anciens truands encore se sont reconvertis dans le BTP. Ouais, et donc on plaçait de l'argent on gagnait de l'argent pendant les 15 années d'urbanisation du plan d'urbanisme directeur de 59 à 75 quoi. Et puis ça a continué par la suite, on a vu après un type comme Dominique Venturi qui était un ancien du trafic des cigarettes des années 50 et tout, qui a une boîte de BTP qui travaillait avec la mairie, qui était impliqué dans les fausses factures. Fausses factures où on retrouvait Antoine Andrieux, Jean Masse, enfin parmi les gens inculpés. Après, bon, on peut pas dire, puisque je crois que Masse est mort avant d'avoir été jugé. Je me rappelle pas ce qui s'est passé. Enfin, il y a beaucoup les services techniques de la mairie impliqués. Enfin, ouais, tu vois, il y a des contiguïtés, quoi. Ouais. Là aussi, les contiguïtés jouent au niveau, disons, du prolétariat et du sous-prolétariat. Elle joue également au niveau de l'élite politique et bourgeoise.
3, 4. Je ne suis pas un professionnel de l'amour et de la vaisselle. Je ne suis pas un intellectuel. J'aime quand tu me trouves beau, que tu me dis que j'ai ce qu'il faut pour être ton héros. Non, je ne suis pas un genre de criminel. Si je ne sais plus qui est cette beauté, cette triste fée dans mon lit, ma maison, qui ne comprend pas quand je lui dis combien je l'aime, qu'elle est bien celle qui me donne des ailes. Non, je ne suis pas un professionnel de la nuit qui sourit sans envie. Et non, je ne suis pas un cœur artificiel que mon corps pour vivre sous ton ciel. Et que tu m'aimes, que tu me dises que j'ai ce qu'il faut pour être ton héros. Non, je ne suis pas un professionnel, un professionnel, un professionnel, un professionnel.
Bon, maintenant, on a d'autres configurations qui apparaissent. Hein. C'est notamment le deal de shit, qui était voire de coq, qui étaient des activités très artisanales, avant qu'ils soient devenus des trucs organisés de façon presque... Ouais, avec une logique de division du travail sur des cités, certaines cités dans les quartiers nord, hein, avec des gens qui sont des employés salariés, quoi. Il y en a un tel qui est payé pour faire le guetteur, d'autres pour le rabatteur, d'autres pour surveiller les dépôts de marchandises, etc. Enfin, il y a eu plusieurs affaires qui ont mis ça. Mais c'est des équipes qui franchissent pas les limites de la cité. Ça débouche pas sur du grand banditisme. Ou quand c'est au grand banditisme, généralement, ça tourne court assez vite. Quoi.
Comment
ils ont pas assez de relais. Ils ont, contrairement aux Corses et aux Italiens, enfin, ou disons, il n'y a pas que les Corses, on dit les Corses et les Italiens, mais bon, tu prends Van Verberg, le Belge, il était ni Corse ni Italien, Jacky Lemat, Imbert, qui est un homme bien provençal. Enfin, en général, quand même, le gros des troupes, c'était là. Mais c'est des gens, pour pratiquer la grosse délinquance, il faut être un minimum intégré à la société. Or, les jeunes issus, en particulier de l'immigration nord-africaine, ils sont dans les quartiers nord, n'ont pas ce niveau d'intégration, ce qui fait qu'ils sont vite bloqués au niveau de leurs activités délinquantes. Ils reblanchissent après un peu dans des trucs, des snacks, des épiceries, des trucs comme ça. Quoi. Mais,
comment ça s'est mis en place, ce petit trafic là, de shit ou d'herbe?
Au départ, de manière artisanale. Bon, je me rappelle être allé voir un copain à la Busserine en 83, les mecs venaient te brancher, on voulait acheter de la gave, on voulait acheter de la gave, de l'héroïne, tu vois. Déjà, tu vois.
Mais ça vient d'où?
D'où ça vient, qui le sait? Faut demander aux flics des stupes, ça. Ça vient de partout. Bah, le shit, on sait bien que ça vient du Maroc, via l'Espagne ou en bateau. Après, la mort blanche, ça vient probablement par tout un tas de voies, peut-être d'Italie, via l'Albanie, j'en sais rien. Hein. Mais bon, tu as tout ça, si tu veux. Et tout ça qui voisine avec, par ailleurs, toute une, chez beaucoup de gens, toute une stratégie de la débrouille qui, elle, est, bien qu'elle soit clandestine, illégale, n'a rien à voir, si tu veux, avec cette délinquance-là. Quoi. C'est pas de la délinquance, d'ailleurs. Quoi. Le travail noir à Marseille, c'est quelque chose. Alors c'est subi, il y a beaucoup de gens qui le subissent. Hein. Le gars qui est le comarin qui fait la plonge au noir à l'arrière d'une pizzeria marseillaise, je suppose qu'il préférerait déclarer. Hein. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est un choix. Je sais que par exemple, ma voiture, je la fais réparer depuis 10 ans. C'est un mec qui a un ancien mécano qui a bossé 7 ans dans un garage, qui en a eu marre de se faire exploiter, qui s'est fait sa petite clientèle et qui bosse comme ça au black. Le mec, c'est un vrai professionnel. Quoi. Il a un petit endroit, clando, il a un petit atelier où il a tout ce qu'il faut, il a son réseau, voilà. Ça existe, tu as pas mal de gars qui touchent un peu de fric, c'est dit, il faut un petit truc en plus, maçonnerie, peinture, beaucoup de boulot comme ça, tu vois, mécanique, c'est surtout dans ces boulots qu'il y a du black. Après, bon, tu as d'autres filières, la confection, des trucs comme ça, mais là, je sais pas trop, là... Mais c'est vrai que c'est une culture. Moi, le premier, je veux dire, si je dois faire venir quelqu'un pour reprendre mon appart, je préfère que ça soit au black, j'ai pas envie de filer des sous à l'État. Quoi. Je veux dire, ça, c'est une culture qu'il y a à Marseille, quoi, qui est très répandue. Et qui n'est pas prête de s'en aller. Après, bah, au niveau. Pour revenir aux grosses magouilles, on entend des affaires, par exemple, autour de l'OM, tu vois, autour du port aussi. L'affaire Goubert, des trucs comme ça, bon. On ne sait pas trop, mais c'est vrai qu'il y a... Par exemple, à Marseille, c'est vrai, et ça, c'est un truc très ancien, déjà. C'est vrai que, par exemple, beaucoup d'élus, de droite comme de gauche, aiment bien s'encanailler, aiment bien s'afficher avec des figures du milieu, ou avec des gens sulfureux. Ça, c'est vrai. Y compris même des gens proches de la chambre de commerce, des gens comme ça.
Pour leur protection ?
Pas forcément, ils aiment bien s'encanailler, genre je connais un tel qui... C'est une façon, ouais, peut-être aussi une façon de faire comprendre que, éventuellement, si on me pose des problèmes, je peux compter sur l'appui d'un tel. C'est des messages qu'on envoie de s'afficher dans tel endroit, dans telle boîte de nuit, dans tel restaurant, avec une personne qui notoirement est liée à telle autre personne qui est franchement marquée. C'est aussi ça peut être aussi une stratégie au niveau de consolider ses positions, quoi. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, et tu entends parler, moi je vois à la plaine, des fois tu entends parler de telle personne qui a plongé et tout, et il y a tout le monde est moustillé, il y a une espèce de sympathie canaille, tu vois, même parmi les petits bourgeois, du plus bas de l'échelle sociale au plus haut, il y a, disons, on aime bien, quoi, on aime bien. Alors que, par exemple, à Paris, Ouais, bon, peut-être dans le milieu du showbiz un peu. Mais sinon, en général, ils n'ont pas trop les élus s'exhiber avec des types du milieu.
Quoi. C'est un autre milieu.
Ouais, c'est notre milieu. Ouais. Mais voilà, donc si tu veux. Bon, il n'y a, pas de mafia à Marseille, il y a des équipes, quoi. Il y a des grosses équipes. Mais rien de comparable avec ce qu'il y a en Italie du Sud. Bon, en Italie du Sud, les configurations sont très différentes entre la Sicile.
Pas de lien. Enfin, je pensais qu'il y avait justement des réseaux comme ça qui étaient un peu officieux, quoi, en marge, entre l'Italie, la France.
Ah, il y a des contacts, oui, bien sûr. Bah, il y a Michele
Zaza. Il y avait sûrement des business qui se faisaient.
Ouais, bah, par exemple, le roi des contrebandiers, le chef de la contrebande de cigarettes, la Michele Zaza, qui a été arrêté à Marseille au début des années 90, où il s'était installé, qui a été condamné à de la prison, après qui est parti, bon, qui est mort peu après. Il avait des gros contacts sur Marseille, il cherchait à s'implanter. L'histoire de Bernard de Provenzano, là, qui était venu se faire soigner dans un hôpital ici. Non, il y a des contacts, ça c'est clair, hein. C'est évident qu'il y a des trucs. Mais ça, c'est des trucs marginaux, c'est exceptionnel, quoi. Je veux dire, après, il y a peut-être des contacts au niveau de certains trafics. Mais si tu veux, la chose essentielle, c'est que tu as quand même. Le milieu, ici, ne traite que des secteurs marginaux de l'activité sociale. Qu'après, ils s'interfèrent dans d'autres aspects, comme par exemple le port, l'OM, des trucs comme ça. C'est une chose, mais... parce que là, il y a énormément d'argent en jeu. Il y a des grosses sommes. Mais je veux dire, après... je le sais bien, quoi. Tout un tas d'activités, que les PME, les petits commerces, tout ça... À Marseille, en règle générale, ils ne subissent pas de raquettes, alors que tu vas à Naples ou tu vas à Palerme. Non, il n'y a personne qui y coupe. Tout le monde doit à quelque part un moment. Alors, ils calculent ça au prorata. Le but, c'est pas de mettre le gars sur la paille. Hein. Le commerçant lui répercute ça sur les clients. Mais non, ici, c'est pas à ce niveau-là, quoi. Ne serait-ce que parce que. Enfin, pour des raisons historiques, hein, je ne vais pas me lancer à faire. L'histoire de tout ce processus. Il y a un livre qui a été écrit par une universitaire napolitaine, j'ai oublié le nom, elle fait une étude comparée de la Camorra et du milieu marseillais, un livre qui est sorti en italien, où elle dit effectivement la même chose, quoi. Elle étudie un peu les derniers cas, les figures de Zampa, de Gaëtan Zampa, de Jean Tocci, les dernières grosses pointures, après bon, le Belge, tout ça. Et ouais, il arrive à la conclusion que Marseille se présente quand même pas ce côté de jungle totale quand tu te trouves à Naples, quoi. Et puis bon, l'histoire n'est pas la même, quoi. Si tu vas en Italie du Sud, il y a de toute façon une méfiance traditionnelle par rapport à l'État, qui est toujours venu de l'extérieur. Quoi. À Marseille, il y a une adhésion très précoce des élites à l'État, à partir de la Révolution française, quoi. Qui fait que si tu. Et puis tu as une bourgeoisie quand même à Marseille. Ce que tu n'as pas à Naples. Ce que tu n'as pas la conquête du sud de l'Italie par le nord, ça a eu pour effet de briser dans l'œuf tout développement bourgeois dans le sud de l'Italie, notamment sur Naples, qui était quand même une ville industrielle à l'époque. Hein. Et ça, ça a fait le lit de la Camorra, de la Cosa Nostra à Palerme. Qui s'insinue, si tu veux, comme une puissance de médiation dans la société.
C'est plus facile dans une ville pauvre.
Oui, bien sûr que c'est plus facile dans une ville pauvre. C'est pour ça que Marseille, qui est quand même une ville pauvre, aussi a beaucoup plus de. Connaît beaucoup plus. Se rapproche plus quand même de l'Italie du Sud que de la France du Nord à ce niveau-là. Mais c'est pas nécessairement. Je veux dire, la Cosa Nostra en Sicile, c'est des gens. C'est pas des pauvres. Hein. C'est des gens qui ont un rôle de... C'est souvent issus des gens qui prennent le contrôle des grands domaines latifondiaires pour le compte de barons, d'aristocrates absentéistes qui vivent à Naples ou à Rome, et qui font, si tu veux, l'interface entre eux et puis la masse des paysans. Et en gros, c'est des gens souvent issus, disons, de la classe moyenne, quoi. Après, les cas de figure sont différents. À Naples, oui, là, vraiment, la Camorra, c'est vraiment des gens qui viennent de la plèbe urbaine. Ouais. C'est autre chose, là, c'est des fonctionnements très différents. Quoi. On regroupe ça sous la même rubrique, là, mais c'est un tort parce que c'est des fonctionnements très différents. C'est vrai qu'à Marseille, oui, les gens qui, en général, qui sont les grosses figures du milieu, c'est des gens qui aiment des quartiers pauvres. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. C'est une voie d'intégration. Hein. Mais je te dis, là, je crois que le système est entré en crise aussi. Je crois que pour toute une partie de la jeunesse, il n'y a plus cette voie d'intégration qui en était une. C'est sûr que ce n'était pas l'intégration.
Pourquoi ça disparaît ? Parce que l'esprit est toujours là pour ça.
Ça disparaît tout simplement parce que les voies de l'intégration tout court à la société disparaissent. Parce que la société est en voie de désintégration accélérée. Quoi. Et que donc, je veux dire, les dernières immigrations en vague, les dernières immigrations en cours, je veux dire, non plus. Pour les Italiens, par exemple, tu avais des. De la même manière qu'on pouvait s'élever, le père était manœuvre, les fils étaient ouvriers qualifiés ou fonctionnaires, etc. Et puis, bon, bah, certains, bah, les fils étaient truands, voilà, ils réussissaient ou pas dans ce secteur. Mais comme je disais, pour pratiquer la grosse délinquance, il faut un minimum d'intégration. Tu le vois bien, hein, les Guérini, c'était des notables. Hein. Je veux dire, c'était pas des types qui se baladaient en chaussures bicolores et en panama blanc sur la tête à faire les marioles au coin des bistrots. Hein. C'est des gens assez discrets, assez effacés. Hein. On est loin de l'imagerie des films des années 30. Hein. C'était des notables. Hein.
C'est la même famille que notre...
Non, lui, il dit que non. Bon, si, ils sont originaires tous de Calenzane. Calenzane, c'est pas immense non plus. Quoi. Mais bon, de toute façon, je veux dire, même, on n'est pas responsable de sa famille. Non, mais il n'y a pas de filiation directe. Hein. Au niveau de certains élus marseillais, tu as des comportements de pur truand. Hein. Je veux dire, d'intimidation violente. Plusieurs cas m'ont été cités par des gens que je considère tout à fait dignes de foi. Hein. Non, tu as des... ça, c'est clair et net. Hein. Je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas que vous ayez des emmerdements, des procès en diffamation, mais... Non, ça existe, ça c'est clair et net. Et ça va bien au-delà des services rendus en période électorale, quoi. Ça, c'est clair et net. Mais, pardon, parler des Guérini, quand tu parles avec les vieux du panier, ils te disent tous, c'est marrant quand même comment les gens réagissent, hein. Ils te disent tous, ouais, mais c'était, bon, c'est des truands, mais au moins, ils contrôlaient la situation ici. C'est vrai que personne ne se risquait à aller chaparder quoi que ce soit au panier. Donc on pouvait laisser les portes des maisons ouvertes. Je crois que c'est pas seulement à cause de la terreur qu'inspiraient les Guérini, je crois que c'est tout simplement parce qu'à l'époque il y avait plus de solidarité, plus de liens de proximité, de voisinage, et qu'il y avait une surveillance qui s'exerçait, qu'effectivement tu pouvais laisser ta porte ouverte au panier à l'époque. Les gens, beaucoup de gens passaient leur journée à une chaise devant la porte, les femmes, les vieux. Maintenant il n'y a plus rien de tout ça. On a en plus juxtaposé ces derniers temps des populations complètement différentes de façon totalement arbitraire. Ça peut pas donner des bons résultats. Et c'est clair que maintenant, tu fermes plus ta porte au panier. Enfin, même quand tu la fermes, ça casse à tout va, hein, les apparts du panier, maintenant. Je veux dire, le lien de solidarité à la fois, j'ai envie de dire, ethnique, territorial et social qu'il y avait avant, il est rompu. Hein. Il est rompu depuis, je dirais, 20-25 ans, au moins.
Donc finalement, les truands, quelque part, aussi assuraient une certaine sécurité dans les quartiers.
C'est-à-dire, dire ça, ça veut dire que quelque part, on tombe dans le truc de la protection, quoi. Mmh. Non, moi je te dis, dans le cas de Wos, oui, c'est clair que si par exemple, moi j'ai habité à la Belle de Mai à l'époque où le Belge prenait son apéro là au bar qui était la place Cafour, le café du théâtre. Vous voyez, il était là, assis à califourchon, avec un blouson de cuir élégant. Mais c'est pareil, sobre, hein. Je veux pas... J'étais pas le gangster de cinéma. Hein. Bon, alors, c'est sûr que si un commerçant à côté avait un problème avec une bande de petits jeunes du coin, il allait demander à M. Francis ou à ses affiliés d'intervenir. Ou simplement, il menaçait de le faire, et ça suffisait à ce que les choses se calment d'elles-mêmes, quoi. Mais c'était pas... Je crois que... Ils avaient pas une emprise territoriale comme... C'est vrai que par exemple en Italie du Sud, les gens à qui tu payes le pizzo, le rack, quatre. En tout cas, c'est sûr pour la Sicile et la Calabre, c'est sûr, ils te protègent. Après, c'est des problèmes. Enfin, ils te protègent. Je sais, c'est un problème avec des voleurs et des délinquants, tout ça. Et ouais, c'est une sorte de protection. Hein. Mais bon, elle est cher payée, quoi. Mais donc, voilà, si tu veux un peu, en gros, le topo. Sur Marseille, quoi. Je pense que.
Ouais, c'est une ville que... qui s'assagit quand même, de plus en plus.
C'est pas sûr du tout, ça. Non, c'est pas sûr.
Enfin, qui reste, qui garde un certain esprit.
Non, c'est pas sûr. Moi, je pense au contraire, comme il y a sûrement des formes de délinquance qui vont se faire de plus. Peut-être plus désespérées. Parce que les conditions sociales se font beaucoup plus dures. Et en plus, je pense qu'avec les politiques de tolérance zéro qu'on est en train de mettre en place, ça va avoir pour effet de doubler, voire de tripler les effectifs des baumettes, qui sont déjà bien chargés. Mais c'est vrai que les voies d'intégration sociale qui étaient là avant ne fonctionnent plus. Avant, tu étais jeune dans un quartier populaire, tu allais bosser là, au cours Julien la nuit, à décharger des cajots, ou tu encapais sur le quai, ou tu allais bosser même à la réparation navale. Tous ces trucs-là, ça n'existe plus maintenant. Tous ces trucs-là ont disparu. Hein, et... Je veux dire, la délinquance qu'on a connue aussi à l'époque. Moi, quand j'étais gamin, j'étais ado dans les années 70, 80, c'était une délinquance quand même d'une ville où il y avait encore la majorité de la population qui avait du boulot. Maintenant, on est quand même dans des configurations différentes. Maintenant, on est dans une configuration où la précarité devient le lot commun et croissant des travailleurs. Et, alors, c'est pas nouveau pour Marseille. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça devient de plus en plus, ça tend à devenir la règle. Ça tend à devenir la règle. Dans ces conditions, c'est clair que on va vers des phénomènes de débrouille d'un côté et de délinquance de l'autre, de plus en plus fort, de plus en plus organisé. Hein. Non, moi je pense que non, la ville ne s'assagit pas, je pense pas ça du tout. Hein. Non, je pense au contraire que ça va aller de plus en plus, ça va continuer à se développer, la culture de l'entraide aux blacks, de tout ça, et personnellement je trouve ça très bien. Je le dis clairement. Après, par ailleurs, pour tout ce qui est la délinquance, maintenant là, une grande partie de la délinquance fonctionne sur les trucs marginaux, tu vois, la drogue, les jeux, enfin, les machines à sous, les trucs comme ça. Les trafics de voitures avec le Maghreb, les machines comme ça. Mais il n'y en aura pas pour tous. Donc là aussi, il faut s'attendre à ce que le sang coule.
Merci, Alessio.
Combien de temps j'ai parlé là ?
C'était l'Histoire universelle de Marseille, un programme conçu à partir du livre du même nom d'Alessi Del Umbria. Alessi est l'auteur de ce livre remarquable, extrêmement documenté, qui aborde l'histoire de la cité dans ses déterminations sociales, politiques, urbanistiques, culturelles, et ce, de l'an 1000 à l'an 2000. Le livre est sorti aux éditions Agone. Le livre « L'histoire universelle de Marseille » est édité après 13 ans d'écriture, de recherche documentaire. Alessi n'est ni historien, ni universitaire, mais il a un rapport très impliqué à la ville, à Marseille, où il vit et où il a grandi. Il collabore à différentes revues de critique sociale et a fait paraître un autre ouvrage, cette fois aux éditions de L'Échappée, qui s'intitule « C'est de la racaille, et bien j'en suis », à propos de la révolte d'automne 2005. La réalisation des émissions est signée Caroline Galmo, le générique de fin, Momo Wandel Souma. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces émissions sur notre site www.grenouille888.org.
de fait le coger. Dorma mon tocon. Ben de fait le coger. Comme de.
Oh, you tap along the na 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 na. I tap along the coin now.